Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuality, l'émission de débat entre lycéens. Et avant de commencer notre sujet de la semaine, pas de musique, mais quelques sons qui nous viennent tout droit de Téhéran, écoutez. Ces tensions sont dignes d'une série Canal aux multiples rebondissements. Après l'invasion de l'ambassade américaine par une milice chiite irakienne et pro-iranienne, ainsi que la mort du général Qassem Soleimani, la riposte de l'Iran a tourné au fiasco. En effet, les Iraniens étaient dans la rue le 11 janvier, après que le général Amirali Azizad a reconnu, un temps après l'avoir nié, la responsabilité de l'Iran dans le crash du Boeing 737 ukrainien, abattu par des tirs de roquettes dans la nuit du 8 janvier. Notre ennemi est ici, il ment en disant que c'est l'Amérique, scandent les habitants du pays perse, tout en s'en prenant à l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi au président Hassan Rouhani. Dans un contexte où les tensions entre les États-Unis et l'Iran continuent de monter, l'ancienne Perse perd de plus en plus ses citoyens. Trump a annoncé soutenir ses mouvements dans une série de tweets, alors qu'il a imposé de nouvelles sanctions économiques en réponse aux tirs des missiles. Alors, avons-nous pour l'instant frôlé le pire, ou peut-il encore venir? Nous répondons à cette question sur Radio PFM 99.9 avec l'Actuality. Et aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas seul, je suis entouré de Eudes. Bonjour Eudes.
Salut.
D'Arthur.
Bonjour.
Et de Julie à la régie.
Coucou.
Et je laisse le soin à Arthur de nous présenter notre sujet de la semaine, c'est le point information.
L'assassinat en Irak du général iranien Qassem Soleimani, revendiqué par Washington, s'inscrit dans un contexte de vives tensions entre l'Iran et les États-Unis depuis 40 ans, qui n'ont cessé de s'accroître depuis l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump et le retrait de son pays de l'accord sur le nucléaire iranien. Une semaine après la mort du général iranien et deux jours après la riposte de Téhéran visant des soldats américains en Irak, les États-Unis ont détaillé vendredi 10 janvier les nouvelles sanctions économiques visant l'Iran que Donald Trump avait promises. Elles visent 8 hauts responsables de la République islamique ainsi que les plus grands fabricants d'acier, d'aluminium, de cuivre et de fer du pays. Par ailleurs, le département d'État américain a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de discuter d'un retrait des troupes américaines en Irak, malgré la demande du Premier ministre irakien et le vote du Parlement local. Alors, qui est Qassem Soleimani? Pour pouvoir contextualiser un petit peu, donc c'est effectivement un général iranien qui est connu pour son rôle majeur. Il a notamment réussi à convaincre Poutine d'intervenir en Syrie pour sauver Bachar el-Assad. Il est fortement soutenu par la population et d'ailleurs l'ayatollah Ali Khamenei souhaite venger sa mort et a déclaré un deuil national, donc maintenant passé, mais qui a duré tout de même 3 jours. Il a notamment pris part au mouvement des gardiens de la révolution, mouvement qui a pris naissance grâce aux responsables religieux pour se prémunir d'un coup d'état des forces militaires. C'est un général qui était pour le régime de Bachar el-Assad et donc sa disparition, son décès, son meurtre quelque part par les États-Unis est donc une volonté et n'est pas un accident. Voilà pour le point information.
Très bien, merci beaucoup Arthur pour cette présentation de notre sujet de la semaine. Nous allons donc parler des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et la première question que j'ai envie de vous poser, cher chroniqueur, c'est World War III or not World War III? That's the question, point d'interrogation.
Bon, pour moi, il n'y a pas débat du tout. Hein. L'annonce de la Troisième Guerre mondiale, bon, bien que ça ait été beaucoup parodié, c'est
oui,
l'inquiétude des gens qui ne connaissent pas beaucoup sur le sujet finalement et qui voient ça. C'est vrai que c'est un peu affolant de voir les tensions monter, notamment l'événement tragique avec le Boeing. Mais pour moi, la Troisième Guerre mondiale, c'est impossible. Déjà, une guerre Iran-États-Unis, ça paraît quand même très complexe, puisque du côté états-unien, par exemple, il y a Trump qui est vraiment qui a fait monter les tensions, mais derrière le pays, il y a tous les parlementaires, il y a par exemple les démocrates, Nancy Pelosi, etc. Donc là, on va plus vers une désescalade des tensions. Et niveau iranien, bon, même si ça reste un jeu de force pour ne pas se considérer comme plus faible, si je puis dire. Niveau iranien, ils n'ont pas du tout la puissance nécessaire pour lutter contre les États-Unis, à mon avis.
D'accord, donc on va droit vers une désescalade des tensions avec un Iran qui est évidemment plus faible que ses voisins, selon toi.
Il faut espérer,
évidemment. Arthur, qu'est-ce que tu penses, toi? Troisième guerre mondiale ou pas?
On va droit, oui et non. On a déjà assisté à une désescalade dans la mesure où il y a eu quelques frappes opérées par l'Iran, mais bon, moi, ils me font rire. Ils ont visé des hangars logistiques. Donc bon, ils passent un petit peu pour des blaireaux quand même de viser des hangars logistiques et pas viser des structures avec du personnel militaire. Donc je pense que c'était plus pour dire de ne pas rester passif par rapport à cet assassinat en fin de compte. Hein. Mais il y a eu, à mon avis, volonté de ne pas commettre de meurtre auprès des Américains, parce que je pense qu'ils savaient, ils avaient en tête, et puis on le sait que l'Amérique est une puissance militaire et qu'ils ne faisaient pas le poids par rapport à cette puissance militaire au vu de leur armée, leur constitution de leur armée.
Ouais, c'était un peu un compromis entre faire une grosse frappe qui aurait vraiment énervé les États-Unis,
c'est ça,
et faire rien du tout qui les aurait fait
c'est
passer.
C'est purement diplomatique, c'est, certes on répond, mais on est vigilant sur la proportion de la réponse.
C'était le bon choix pour l'Iran de faire ces tirs-là ? Qui n'ont évidemment blessé aucun Américain, comme l'a rappelé Donald Trump. Je précise qu'il y a eu beaucoup de fake news.
Il y a pas des Américains qui ont été blessés.
Non, il y a aucun Américain qui a été blessé ni même tué durant ces frappes.
D'accord, il me semblait que si. Très bien. Bah, c'était le bon choix pour le côté iranien ou états-unien ?
Est-ce que cette réponse était le bon choix de la part de l'Iran, ou est-ce qu'ils auraient dû frapper plus fort, ou ne pas frapper, ou frapper moins fort ?
Bah c'est ce que je disais, c'est vrai que d'un point de vue diplomatique, effectivement, il était nécessaire que l'Iran réponde à cette offensive américaine, cette attaque américaine, d'une part pour contenter sa population qui a un désir de vengeance, et le fait que le président iranien ait galvanisé les foules en exigeant vengeance, il était obligé de répondre dans tous les cas. Mais du côté américain, il est très clair que entre détruire quelques locaux logistiques, donc impact physique uniquement, et ne rien faire, c'est tout à fait similaire pour eux, les Américains. Bon, bah d'accord, quelques bâtiments logistiques détruits, mais il n'y a aucun impact physique. Mais d'un autre côté, à mon sens, il est certain que si les Iraniens avaient fait une offensive physique avec des décès du côté américain, la réponse de l'Amérique aurait été militairement beaucoup plus supérieure de par leur capacité par rapport à l'armée iranienne. Ça c'est évident.
Alors je corrige une information que je vous ai annoncée juste avant, excusez-moi pour cette fake news, mais il y a eu 11 Américains blessés, c'est une information qui est tombée il y a quelques heures, nous enregistrons le 17 janvier, et il y a 9 heures de cela, le Parisien a annoncé qu'il y a quand même eu 11 soldats qui ont été blessés dans l'attaque iranienne du 8 janvier.
Donc du coup, moi c'est la même chose quand je dis qu'il n'y a pas d'impact physique, mais oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'impact physique dans
ça,
la mesure mineur, où il y a eu des meurtres quand même opérés par l'Amérique, donc... proportionnellement entre des blessés et des morts, l'impact est minime.
D'accord. Eudes, cette réponse iranienne ?
Bah pour moi, c'est une réponse qui est somme toute logique, puisqu'on a d'un côté une riposte trop forte qui aurait enclenché des conséquences finalement dramatiques pour l'Iran, puisque ça aurait déclenché une escalade des tensions et une intervention militaire des États-Unis, pourquoi pas la clé ? Mais de l'autre côté, s'il n'avait rien fait, l'Iran aurait complètement perdu diplomatiquement, même si on peut, comme Arthur le soutient, voir que c'était une faiblesse sur le plan diplomatique, mais c'est la réponse qui semble somme toute la plus logique et la plus facile, la plus mesurée, oui, si on peut parler de mesure dans ce cas-là, pour l'Iran. Oui.
D'accord, donc une réponse somme toute mesurée et logique, entre guillemets, de la part de l'Iran après l'exécution du général Qassem Soleimani, qui était le dirigeant des forces Al-Quds, qui est la branche armée, comme tu l'as rappelé Arthur, des gardiens de la Révolution. Est-ce que Donald Trump a eu raison d'exécuter ce général iranien qui a une grande influence en Iran, qui est même considéré par certains comme le numéro 2 du régime après l'ayatollah Ali Khamenei? Est-ce que Donald Trump a eu raison de l'exécuter ou pas?
Bah pour moi, le gros problème dans tout ça, c'est que Donald Trump s'est couvert sous le secret défense. Donc finalement, on a très peu de légitimité et très peu de justification quant à cela. Mmh. Bon, après, ça peut être vu comme une menace de la part des États-Unis, mais de là à abattre directement le général... Le problème du secret défense, c'est que finalement, est-ce qu'on pourrait pas cacher tout et n'importe quoi derrière le secret défense sous prétexte que ça concerne l'Amérique ? Donc là encore, à voir s'il y a abus du secret défense ou si c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui a été impératif. Mais pour l'instant, ça reste assez flou pour moi.
Exactement, information à prendre une fois de plus avec des pincettes. Mais Donald Trump a annoncé et a dit que Qassem Soleimani était prêt à frapper contre des Américains. Et évidemment, cette information n'est pas vérifiée. À l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as pensé de cette exécution de Donald Trump qui a fait suite à des manifestations et des Irakiens qui sont entrés dans l'ambassade américaine à Bagdad.
Bah écoute, pour moi, il y a deux points de vue qui sont intéressants. Il y a le point de vue extra-américain et le point de vue intra-américain. J'entends par là, c'est bientôt les élections présidentielles américaines, donc bon, c'est dans la continuité du retrait de l'accord du nucléaire iranien, d'aller abattre un général important. Donc, dans le cas des présidentielles, je pense que ça fournit une forme d'action majeure de la part du président pour contenter son électorat. Pour moi, je pense
que... C'est une action électorale en période de présidentielle.
Oui, clairement. Et en dehors de cela, qu'est-ce que j'en pense? C'est que on a le retrait des troupes américaines en Irak et on a les petits Européens qui sont dans le coin et qui vont devoir gérer toutes les problématiques qui vont être engendrées par cet assassinat.
Alors les États-Unis avaient annoncé ramener d'autres militaires sur le sol irakien, ils n'ont pas encore retiré...
Bien sûr, mais l'objectif pour Trump est de se retirer totalement de cette intervention qui est totalement extérieure à l'Amérique.
Oui,
le territoire étant éloigné, America First, enfin, c'est dans la continuité de la politique de Trump. Et c'est encore les Européens qui vont se retrouver à gérer la mer de l'Amérique, encore une fois. Voilà. Donc pour moi, c'est encore une fois problématique. Sauf que, encore une fois, la diplomatie européenne, bah, elle n'a pas été très éloquente, si je puis dire, après ces événements.
Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, la diplomatie européenne, selon vous, pour lutter face à ce problème, ces tensions ?
Malheureusement, là, on va quitter le sujet, mais c'est toujours le problème de l'Europe. C'est qui est le leader de l'Europe, qui va aller face à Trump, lui dire « arrête tes conneries parce que c'est nous qui ramassons les pots cassés et qui devons gérer la merde après ton passage ». Là, pour l'instant, il n'y a personne. On n'a pas une Europe qui a une construction forte pour répondre à Trump. Et c'est là tout le problème. Et donc, encore une fois, on laisse passer ça. On laisse passer ça. De toute façon, on ne pouvait pas l'arrêter puisque c'est un choix de l'Amérique, c'est du secret défense. Mais une fois l'assassinat opéré, on n'a pas de réponse.
Mais est-ce que ce n'est pas mieux quelque part que l'Europe n'intervienne pas pleinement dans le conflit pour ne pas empirer la situation?
Oui, mais tout le problème, c'est que nous, on est là-bas, on a nos militaires, on investit du pognon là-bas pour résoudre les problèmes et on en rajoute des problèmes. Déjà qu'on a du mal à s'en sortir avec toutes les opérations qui sont en cours. Nous on crache du pognon, et voilà, on crache du pognon encore une fois.
Eudes, pour toi, il y a un problème de diplomatie européenne sur cette question, est-ce qu'on a un manque de leader?
Bon, il y a quand même à noter qu'il y a beaucoup de passivité côté européen, mais finalement c'est assez logique. Déjà, bon, comme l'a rappelé Arthur, la construction européenne, l'Europe, on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui que l'Europe est une, unifiée avec une seule voix. Il y a beaucoup de voix différentes, je pense en Pologne, en Hongrie, on n'a pas du tout la même vision de l'Europe qu'en France, en Allemagne, même en Italie, on n'a pas du tout la même vision. Donc forcément, déjà l'Europe est un peu faible de par sa diversité, entre guillemets, même si la diversité est une force, mais là c'est la diversité politique. Et puis d'autre part, l'Europe est assez externe au conflit, mis à part les troupes. Donc le problème, c'est que ça a été un duel Iran-États-Unis et que, bon, forcément, l'Europe, par rapport à ça, bon, je pense à la France notamment, s'est positionnée dans un premier temps du côté de la mesure, bon, ce qui était la chose la plus logique à faire finalement pour l'Europe.
Calmer un peu, d'essayer de calmer ces tensions.
Même si, bon, l'impact est plus diplomatique que réel, hein, il n'y a pas vraiment un impact réel, mais l'Europe se range encore une fois finalement dans le sillage des États-Unis puisque c'est leur allié historique. L'Europe a des valeurs beaucoup plus proches des États-Unis que de l'Iran, donc et puis l'Europe dépend énormément économiquement des États-Unis, donc finalement le pouvoir de l'Europe est pas vraiment aujourd'hui suffisant pour pouvoir s'imposer et finalement apporter une réponse stricte à Donald Trump sur ce plan-là.
Et c'est vrai que c'est tout le problème, tu as raison de le dire, l'Europe dépend des États-Unis, alors que l'Europe est une puissance économique, sauf que à cause des nombreuses fractures qui existent en Europe, on n'arrive pas à se dire, nous, continent européen, nous, pays de l'Union européenne, nous allons aller contre l'Amérique, parce que tout le monde ne suivrait pas, et c'est là vraiment le problème.
D'accord. Pour recentrer, une dernière question de cette première partie, pour recentrer un peu sur le sujet, tu ne m'as pas dit, toi, Eudes, est-ce que pour toi, l'exécution du général Qassem Soleimani par Donald Trump, c'est un coup électoral selon toi ?
Oui, pour moi, tout à fait, ça s'inscrit totalement dans l'électorat de Donald Trump. Bon, c'est quelque chose qui caractérise son électorat, en tout cas son électorat le plus à droite, je dirais. Et donc c'est quelque chose qui va plaire, et donc ça vient finalement renforcer cette image d'un homme fort, d'un homme qui va faire passer son pays, les valeurs de son pays avant les autres. Bon, America First, comme tu disais, pour la politique intérieure, mais à l'extérieur, cet interventionnisme bah, finalement, il témoigne d'une volonté de se replacer
en tant que leader,
en tant que leader comme que, pas forcément du monde, mais de cette région-là, puisqu'il y a assez, il y a pas mal de tensions entre Iran et États-Unis, et Donald Trump se place comme un homme fort, comme un homme qui va résoudre les problèmes, bon, beaucoup par la force, hein, on l'a remarqué, et donc ça peut vraiment plaire à une partie de son électorat. Donc pour moi, ça résulte en partie, pas tout à fait, mais en partie de la campagne de 2020.
D'autant plus qu'il y a beaucoup de bases américaines dans divers pays du Moyen-Orient. Très bien, c'est la fin de cette première partie de l'Actuality Team sur Radio PFM 99.9. Nous avons parlé des tensions USA-Iran et nous continuons à en reparler dans une seconde partie après une petite coupure musicale. A tout de suite.
Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
Encore ensemble pour une petite dizaine de minutes sur l'Actuality Team, sur Radio PFM 99.9. Nous parlons des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et cher chroniqueur, j'ai une question à vous poser. Avant l'exécution de Qassem Soleimani, est-ce qu'il n'y avait pas une réponse à avoir au préalable de Donald Trump? Est-ce que cette exécution de Qassem Soleimani a été trop importante comme réponse à l'envahissement de l'ambassade américaine? Est-ce qu'il n'y avait pas une réponse avant de tuer Soleimani, selon vous, qui représente un homme influent en Iran?
Pour moi, c'est toujours le problème de la diplomatie entre Iran et États-Unis, puisque la voie diplomatique traditionnelle semble être vraiment compliquée entre ces deux pays qui se détestent mutuellement. Donc pour le coup, du côté de Donald Trump, un coup de force, c'était bien plus logique dans sa façon de penser que une intervention qui aurait été plus douce, plus diplomatique. Donc pour moi, c'est pas vraiment étonnant de la part des États-Unis. vis-à-vis des relations qu'elle a avec l'Iran et inversement.
Arthur, je vois que tu acquiesces de la tête.
Oui, effectivement. Et puis, dès qu'il s'agit d'un pays où démocratiquement, c'est difficile, les États-Unis, Donald Trump, ont toujours moins de problèmes au niveau de leur conscience à intervenir par la force, bien sûr.
D'accord. Mais est-ce que tu es Soleimani et c'était une bonne idée? Alors, je rappelle que les forces Al-Quds ont notamment lutté contre l'État islamique. Est-ce que c'était une bonne mesure de le tuer en sachant que, évidemment, les États-Unis combattent l'État islamique et le terrorisme mondial? Est-ce que c'était une bonne idée de le tuer alors que lui-même combat l'État islamique?
Après, bon, je suis désolé, je vais répondre un peu à côté de la question, mais il y a aussi derrière ça un autre enjeu, c'est l'enjeu du contrôle du Moyen-Orient. Parce qu'on sait qu'il y a une forte opposition, par exemple en Irak, entre les milices pro-Iran et les États-Unis. Donc, ça se déroule dans un contexte de duel entre les États-Unis et l'Iran pour avoir une plus grosse influence. Bien sûr, il y a d'autres minorités, enfin, il y a d'autres.
L'Iran a de plus en plus de contrôle. L'Iran est un pays chiite. Dans le monde musulman, il y a les sunnites et les chiites. L'Iran est chiite et a créé un véritable arc chiite qui va du Liban, où le Hezbollah libanais a une grande emprise, qui passe aussi par l'Irak, où l'Est irakien est chiite, et l'Iran qui est le pays chiite de la région. Arthur, cette question de la stabilité de l'Iran, qu'est-ce que tu en penses?
Mais par rapport au
du Moyen-Orient plutôt,
au fait d'atteindre le général, et du coup, est-ce que ça pose le problème d'atteindre un groupe armé qui est censé combattre le terrorisme, le djihadisme? Bon, de là à dire que ce groupe armé ait un impact majeur, point de suspension. Les Européens ont quand même des armées beaucoup plus conséquentes, avec des moyens beaucoup plus conséquents, et surtout une action et des résultats beaucoup plus éloquents.
D'accord. J'ai envie de vous poser une question sur la finalité de ce conflit. Pardon. Donald Trump a annoncé dans une allocution télévisée le 8 janvier, après donc les frappes aériennes, qu'il était ouvert à la paix, mais qu'il a instauré de nouvelles sanctions économiques vis-à-vis de l'Iran. Déjà, est-ce que c'était le bon choix? Et ensuite, avec ces sanctions, pardon, l'Iran est-elle vouée à craquer, selon vous?
Le problème avec les sanctions vis-à-vis de l'Iran, c'est que d'un côté, c'est la politique de Donald Trump de mettre des sanctions sur beaucoup de pays, on le sait. Mais d'un autre côté, ça va forcément diminuer l'influence états-unienne, pas forcément en Iran, mais dans le monde, par exemple avec le dollar. Et aussi en Iran, le fait qu'il y ait des sanctions économiques, ça attise encore plus la haine anti-américaine. Et ça va amener, par exemple, l'Iran à se tourner encore plus vers un programme nucléaire qu'ils avaient décidé d'abandonner il y a quelques années en coopération avec les États-Unis.
De plus en plus, ils amènent à quitter l'accord de Vienne qui a été signé en 2015 pour limiter le nucléaire en Iran. Arthur, est-ce que l'Iran est voué à craquer avec ses nouvelles sanctions économiques?
Craquer peut-être sur le long terme, à court terme non, pas nécessairement. Et puis encore une fois, c'est un jeu diplomatique, il y a eu des frappes opérées par l'Iran, et de même, les États-Unis ont réagi proportionnellement en instaurant des sanctions. C'est toujours un jeu entre le chat et la souris.
D'accord, donc un jeu diplomatique selon toi. Donc si l'Iran à long terme ne va pas craquer tout de suite, est-ce que l'Iran à court terme peut craquer à cause des différentes émeutes qui se déroulent dans tout le pays après que justement l'Iran a annoncé être responsable du crash du Boeing 737 ukrainien qui a été abattu dans la nuit du 8 janvier alors que l'Iran avait justement bombardé certains hangars américains et a malencontreusement justement abattu un avion avec ses tirs de roquettes? Et donc depuis, évidemment, comme je l'avais dit en intro, il y a de nombreuses émeutes en Iran, d'autant plus que le pouvoir en place n'est pas très populaire aux yeux des Iraniens. Est-ce que l'Iran peut craquer sur le plan intérieur et donc craquer sur le plan extérieur? Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Oui, je pense que c'est des mouvements qui sont assez difficiles à prévoir, puisque ça part par exemple d'une manifestation, et ensuite tout le pays commence à s'enflammer, entre guillemets, donc... pour l'instant, avec un pouvoir central qui est assez fort, s'il y a de la répression, forcément, ça va être très compliqué pour la population de mettre un terme à ce régime de la révolution islamique. Mais d'un autre côté, si la contestation est assez globalisée, assez générale et assez forte pour pouvoir faire un mouvement général, pourquoi pas? Après, ça reste à voir quand même.
Pourquoi pas l'Iran pourrait craquer sur le plan intérieur, selon toi? Arthur, qu'est-ce que tu penses de toutes ces émeutes, ces manifestations contre le pouvoir en place
Déjà, pour revenir à cet abattage aérien, il passe encore une fois un peu pour des blaireaux quand même, d'avoir réussi à abattre un avion civil de ligne, qui est quand même un peu plus gros qu'un avion militaire. Pardon, mais...
C'est une preuve de la faiblesse
militaire iranienne. Il faut quand même le faire.
Après, pour moi, ça relève aussi d'un problème individuel. C'est l'individu qui a pris la décision. Donc, il y a une part de responsabilité du pouvoir, mais pas totalement. Il y a des erreurs similaires qui peuvent se produire.
Il y en a pas un qui est derrière son canon.
Ouais.
Hein ? Quand même. Mais voilà, pour moi, c'est une preuve de l'incompétence de cette armée.
D'accord. Une preuve d'incompétence donc pour cette armée. Écoutez, je regarde l'heure une dernière fois et ça annonce justement la fin de l'émission de l'Actuality Team sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Je remercie évidemment Eudes, Arthur et Julie à la régie et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux débats. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.